Chapitre 6. Le jour suivant commença de la même manière que le premier. On se leva et on s'habilla à la lumière. Mais ce matin-là, nous fûmes dispensés de la cérémonie du lavage, car l'eau était gelée dans les bassins. La veille au soir, il y avait eu un changement de température. Un vent du nord-est, soufflant toute la nuit à travers les crevasses de nos fenêtres, nous avait fait frissonner dans nos lits et avait glacé l'eau. Avant que l'heure et demie, destinée à la prière et à la lecture de la Bible, fût écoulée, je me sentis presque morte de froid. Le déjeuner arriva enfin. Ma part me sembla bien petite, et j'en aurais volontiers accepté le double. Ce jour-là, je fus enrôlée dans la 4e classe, et on me donna des devoirs à faire. Jusque-là, je n'avais été que spectatrice à Lowood. J'allais devenir actrice. Comme j'étais peu habituée à apprendre par cœur, les leçons me semblèrent d'abord longues et difficiles. Le passage continuel d'une étude à l'autre m'embrouillait. Aussi, ce fut une vraie joie pour moi lorsque, vers 3 heures de l'après-midi, Mademoiselle Smith me remit avec une bande de mousseline longue de 2 mètres, un dé et des aiguilles. Elle m'envoya dans un coin de la chambre et m'ordonna d'ourler cette bande. Presque tout le monde cousait à 7 heures, excepté toutefois quelques élèves qui lisaient tout haut, groupés autour de la chaise de Mademoiselle Scatcherd. La classe était silencieuse, de sorte qu'il était facile d'entendre le sujet de la leçon, de remarquer la manière dont chaque enfant s'en tirait et d'écouter les reproches ou les louanges adressées par la maîtresse. On lisait l'histoire d'Angleterre. Parmi les lectrices se trouvait la jeune fille que j'avais rencontrée sous la galerie. Au commencement de la leçon, elle était sur les premiers rangs. Mais pour quelque erreur de prononciation, ou pour ne s'être point arrêtée quand elle le devait, elle fut renvoyée au fond de la pièce. Mademoiselle Scatcherd continua jusque dans cette place obscure à la rendre l'objet de ses incessantes observations. Elle se tournait continuellement vers elle pour lui dire « Burns !» car dans ces pensions de charité, on appelle les enfants par leur nom de famille, comme cela se pratique dans les écoles de garçons. « Burns ! Vous tenez votre pied de côté ! Remettez le droit, immédiatement !»« Burns ! Vous plissez votre menton de la manière la plus déplaisante !» Cessez tout de suite. Burns, je vous ai dit de tenir la tête droite. Je ne veux pas vous voir devant moi dans une telle attitude. Lorsque le chapitre eut été lu 2 fois, on ferma les livres et l'interrogation commença. La leçon comprenait une partie du règne de Charles Ier. Il y avait plusieurs questions sur le tonnage, l'impôt et le droit payé par les bateaux. La plupart des élèves étaient incapables de répondre, mais toutes les difficultés étaient immédiatement résolues dès qu'elles arrivaient à Mademoiselle Burns. Elle semblait avoir retenu toute la leçon, et elle avait une réponse prête pour chaque question. Je m'attendais à voir Mademoiselle Scatcherd louer son attention. Je l'entendis au contraire s'écrier tout à coup. « Petite malpropre, vous n'avez pas nettoyé vos ongles ce matin !» L'enfant ne répondit rien. Je m'étonnais de son silence. Pourquoi, pensais-je, n'explique-t-elle pas qu'elle n'a pas pu laver ni ses ongles ni sa figure parce que l'eau était gelée? Mais à ce moment, mon attention fut détournée de ce sujet par Mademoiselle Smith, qui me pria de lui tenir son écheveau de fil. Pendant qu'elle le dévidait, elle me parlait de temps en temps, me demandant si j'avais déjà été en pension, si je savais marquer, coudre, tricoter. Jusqu'à ce qu'elle eût achevé, je ne pus donc pas continuer à examiner la conduite de Mademoiselle Scatcherd. Quand je retournais à ma place, elle venait de donner un ordre dont je ne saisis pas bien l'importance. Mais je vis Burns quitter immédiatement la salle, se diriger vers une petite chambre où l'on serrait les livres et revenir au bout d'une minute, portant dans ses mains un paquet de verges liés ensemble. Elle présenta avec respect ce fatal instrument à Mademoiselle Scatcherd. Puis alors elle détacha son sarrau tranquillement et sans en avoir reçu l'ordre. La maîtresse la frappa rudement sur les épaules. Pas une larme ne s'échappa des yeux de la jeune fille. J'avais cessé de coudre, car à ce spectacle, mes doigts s'étaient mis à trembler et une colère impuissante s'était emparée de moi. Quant à Burns, pas un trait de sa figure pensive ne s'altéra. Son expression resta la même. « Petit endurci !» s'écria Mademoiselle Scatcherd. « Rien ne peut-il donc vous corriger de votre désordre ? Reportez ces verges !» Burns obéit. Je la regardais furtivement au moment où elle sortit de la chambre. Elle remettait son mouchoir dans sa poche et une larme brillait sur ses joues amaigries. La récréation du soir était l'heure la plus agréable de toute la journée. Le pain et le café, donnés à 5 heures, sans apaiser la faim, ranimaient pourtant la vitalité. La longue contrainte cessait, la salle d'études était plus chaude que le matin. On laissait le feu brûler activement pour suppléer à la chandelle qui n'arrivait qu'un peu plus tard. La pâle lueur du foyer, le tumulte permis, le bruit confus de toutes les voix, tout enfin éveillait en nous une douce sensation de liberté. Le soir de ce jour où j'avais vu Mademoiselle Scatcherd battre son élève, je me promenais, comme d'ordinaire, au milieu des tables et des groupes joyeux, sans une seule compagne, et ne me trouvant pourtant point isolée. Quand je passais devant les fenêtres, je relevais de temps en temps les rideaux et je regardais au dehors. La neige tombait épaisse, il s'en était déjà amoncelé contre le mur. Approchant mon oreille de la fenêtre, je pus distinguer, malgré le bruit intérieur, le triste mugissement du vent. Il est probable que si j'avais quitté une maison aimée, des parents bons pour moi, à cette heure j'aurais vivement regretté la séparation. Le vent aurait navré mon cœur, cet obscur chaos aurait troublé mon âme. Mais dans la situation où j'étais, je ne trouvais dans toutes ces choses qu'une étrange excitation. Insouciante et fiévreuse, je souhaitais que le vent mugît plus fort, que la faible lueur qui m'environnait se changeât en obscurité, que le bruit confus devint une immense clameur. Sautant par-dessus les bancs, rampant sous les tables, j'arrivais jusqu'au foyer et je m'agenouillais devant le garde-feu. Ici, je trouvais Burns absorbée et silencieuse. Étrangère à ce qui se passait dans la salle, elle reportait toute son attention sur un livre qu'elle lisait à la clarté de la flamme. « Est-ce encore Rasselas ?» demandai-je en me plaçant derrière elle. « Oui, me répondit-elle, je l'ai tout à l'heure fini. » Au bout de 5 minutes, elle ferma en effet le livre. J'en fus bien aise. Maintenant, pensais-je, elle voudra peut-être bien causer un peu avec moi. Je m'assis près d'elle sur le plancher. « Quel est votre autre nom que Burns ?» demandai-je. « Hélène. »« Venez-vous de loin ?»« Je viens d'un pays tout au nord, près de l'Écosse. » « Y retournerez-vous ?»« Je l'espère, mais personne n'est sûr de l'avenir. »« Vous devez désirer de quitter Lowood ?»« Non. Pourquoi le désirerais-je ? J'ai été envoyé à Lowood pour mon instruction. À quoi me servirait de m'en aller avant de l'avoir achevé ?»« Mais Mademoiselle Scatcherd est si cruelle pour vous. »« Cruelle ? Pas le moins du monde. Elle est sévère. Elle déteste mes défauts. » Si j'étais à votre place, je la détesterais bien elle-même. Je lui résisterais. Si elle me frappait avec des verges, je les lui arracherais des mains. Je les lui briserais à la figure. Il est probable que non. Mais si vous le faisiez, M. Brocklehurst vous chasserait de l'école, et ce serait un grand chagrin pour vos parents. Il vaut bien mieux supporter patiemment une douleur dont vous souffrez seul que de commettre un acte irréfléchi dont les fâcheuses conséquences pèseraient sur toute votre famille. Et d'ailleurs, la Bible nous ordonne de rendre le bien pour le mal. Mais il est dur d'être frappé, d'être envoyé au milieu d'une pièce remplie de monde, surtout à votre âge. Je suis beaucoup plus jeune que vous et je ne pourrai jamais le supporter. Et pourtant, il serait de votre devoir de vous y résigner si vous ne pouviez pas l'éviter. Ce serait mal et lâche à vous de dire « je ne puis pas » lorsque vous sauriez que cela est dans votre destinée. Je l'écoutais avec étonnement. Je ne pouvais pas comprendre cette doctrine de résignation. Et je pouvais encore moins accepter cette indulgence qu'elle montrait pour ceux qui la châtiaient. Je sentais qu'Hélène Burns considérait toute chose à la lumière d'une flamme invisible pour moi. Je pensais qu'elle pouvait bien avoir raison et moi tort, mais je ne me sentais pas disposée à approfondir cette matière. Vous dites que vous avez des défauts, Hélène. Quels sont-ils ? Vous me semblez bonne. Alors, apprenez de moi à ne pas juger d'après l'apparence. Comme le dit Mademoiselle Scatcherd, je suis très négligente. Je mets rarement les choses en ordre et je ne les y laisse jamais. J'oublie les règles établies. Je lis quand je devrais apprendre mes leçons. Je n'ai aucune méthode. Je dis quelquefois, comme vous, que je ne puis pas supporter d'être soumise à un règlement. Tout cela est très irritant pour Mademoiselle Scatcherd, qui est naturellement propre et exacte. Et intraitable et cruelle, ajoutai-je. Mais Hélène ne voulut pas approuver cette addition. Elle demeura silencieuse. Mademoiselle Temple est-elle aussi sévère que Mademoiselle Scatcherd? En entendant prononcer le nom de Mademoiselle Temple, un doux sourire vint éclairer sa figure sérieuse. Mademoiselle Temple, dit-elle, est remplie de bonté. Il lui est douloureux d'être sévère, même pour les plus mauvaises élèves. Elle voit mes fautes et m'en avertit doucement. Si je fais quelque chose digne de louange, elle me récompense libéralement. Et une preuve de ma nature défectueuse, c'est que ces reproches si doux, si raisonnables, n'ont pas le pouvoir de me corriger de mes fautes. Ces louanges, qui ont tant de valeur pour moi, ne peuvent m'exciter au soin et à la persévérance. « C'est étonnant, m'écriai-je, il est si facile d'être soigneuse. »« Pour vous, je n'en doute pas. Le matin, pendant la classe, j'ai remarqué que vous étiez attentive. Votre pensée ne semblait jamais errer pendant que Mademoiselle Miller expliquait la leçon et vous questionnait, tandis que la mienne s'égare continuellement. Alors que je devrais écouter Mademoiselle Scatcherd et recueillir assidûment tout ce qu'elle dit, je n'entends souvent même plus le son de sa voix. Je tombe dans une sorte de rêve. » Je pense quelquefois que je suis dans le Northumberland. Je prends le bruit que j'entends autour de moi pour le murmure d'un petit ruisseau qui coulait près de notre maison. Quand vient mon tour, il faut que je sorte de mon rêve. Mais comme pour mieux entendre le ruisseau de ma vision, je n'ai point écouté ce qu'on disait, je n'ai pas de réponse prête. Et pourtant, comme vous avez bien répondu ce matin. C'est un pur hasard. Le sujet de la lecture m'intéressait. Au lieu de rêver à mon pays, je m'étonnais de ce qu'un homme qui aimait le bien pût agir aussi injustement, aussi follement que Charles Ier. Je pensais qu'il était triste, avec cette intégrité et cette conscience, de ne rien admettre en dehors de l'autorité. S'il eût seulement été capable de voir en avant, de comprendre où tendait l'esprit du siècle. Et pourtant je l'aime, je le respecte, ce pauvre roi assassiné. Ses ennemis furent plus coupables que lui. Ils versèrent un sang auquel ils n'avaient pas le droit de toucher. Comment osèrent-ils le frapper? Hélène parlait pour elle. Elle avait oublié que je n'étais pas à même de la comprendre, que je ne savais rien, ou du moins presque rien à ce sujet. Je la ramenais sur mon terrain. « Et quand Mademoiselle Temple vous donne des leçons, votre pensée continue-t-elle à errer ?»« Non, certainement. C'est rare, du moins. » Mademoiselle Temple a presque toujours à me dire quelque chose de plus nouveau que mes propres réflexions. Son langage me semble doux, et ce qu'elle m'apprend est justement ce que je désirais savoir. Alors, avec Mademoiselle Temple, vous êtes bonne? Oui, c'est-à-dire que je suis bonne passivement. Je ne fais point d'effort, je vais où me guide mon penchant. Il n'y a pas de mérite dans une telle bonté. Un grand, au contraire. Vous êtes bonne pour ceux qui sont bons envers vous. C'est tout ce que j'ai jamais désiré. Si l'on obéissait à ceux qui sont cruels et injustes, les méchants auraient trop de facilité, rien ne les effraierait plus, et ils ne changeraient pas. Au contraire, ils deviendraient de plus en plus mauvais. Quand on nous frappe sans raison, nous devrions aussi frapper rudement, si rudement que la personne qui a été injuste ne fût jamais tentée de recommencer. Quand vous serez plus âgé, j'espère que vous changerez d'idée. Vous êtes encore une enfant, et vous ne savez pas. Mais je sens, Hélène, que je détesterai toujours ceux qui ne m'aimeront pas, quoi que je fasse pour leur plaire, et que je résisterai à ceux qui me puniront injustement. C'est tout aussi naturel que de chérir ceux qui me montreront de l'affection et d'accepter un châtiment si je le reconnais mérité. Les païens et les tribus sauvages proclament cette doctrine, mais les chrétiens et les nations civilisées la désavouent. Comment? Je ne comprends pas. Ce n'est pas la violence qui dompte la haine, ni la vengeance qui guérit l'injure. Qu'est-ce donc alors? Lisez le Nouveau Testament, écoutez ce que dit le Christ, et voyez ce qu'il fait. Que sa parole devienne votre règle, et sa conduite votre exemple. Et que dit-il? Il dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, et faites du bien à ceux qui vous haïssent et vous traitent avec mépris. Alors il me faudrait aimer Madame Reed? Je ne le puis pas. Il faudrait bénir son fils John? C'est impossible. À son tour, Hélène me demanda de m'expliquer. Je commençai à ma manière le récit de mes souffrances et de mes ressentiments. Quand j'étais excitée, je devenais sauvage et amère. Je parlais comme je sentais, sans réserve, sans pitié. Hélène m'écouta patiemment jusqu'à la fin. Je m'attendais à quelques remarques, mais elle resta muette. « Eh bien, m'écriai-je, Madame Reed n'est-elle pas une femme dure et sans cœur ?»« Sans doute, elle a manqué de bonté envers vous, parce qu'elle n'aimait pas votre caractère, de même que Mademoiselle Scatcherd n'aime pas le mien. Mais comme vous vous rappelez exactement toutes ses paroles, toutes ses actions, quelle profonde impression son injustice sembla avoir faite sur votre cœur. Aucun mauvais traitement n'a laissé en moi une trace aussi profonde. » Ne seriez-vous pas plus heureuse si vous essayiez d'oublier sa sévérité, ainsi que les émotions passionnées qu'elle a excitées en vous? La vie me semble trop courte pour la passer à nourrir la haine ou à inscrire les torts des autres. Ne sommes-nous pas tous chargés de fautes en ce monde? Le temps viendra bientôt, je l'espère, où nous nous dépouillerons de nos enveloppes corruptibles. Alors, l'avilissement et le péché nous quitteront en même temps que notre incommode prison de chair. Alors il ne restera plus que l'étincelle de l'esprit, le principe impalpable de la vie pure, comme lorsqu'il sortit des mains du Créateur pour animer la créature. Il retournera d'où il vient. Peut-être se communiquera-t-il à quelque esprit plus grand que l'homme. Peut-être traversera-t-il des degrés de gloire. Peut-être enfin le pâle rayon de l'âme humaine se transformera-t-il en la brillante lumière de l'âme des séraphins. Mais ce qui est certain, c'est que ce principe ne peut pas dégénérer et ne peut être allié à l'esprit du mal. Non, je ne puis le croire, ma foi est tout autre. Personne ne me l'a enseigné et j'en parle rarement. Mais elle est ma joie et je m'y attache. Je ne fais pas de l'espérance le privilège de quelques-uns, je l'étends sur tous. Je considère l'éternité comme un repos, comme une demeure lumineuse, non pas comme un abîme et un lieu de terreur. Avec cette foi, je ne puis confondre le criminel et son crime. Je pardonne sincèrement au premier et j'abhorre le second. Le désir de la vengeance ne peut accabler mon cœur. Le vice ne me dégoûte pas assez pour m'éloigner du coupable et l'injustice ne me fait pas perdre tout courage. Je vis calme, les yeux tournés vers la fin de mon existence. » La tête d'Hélène s'affaissait de plus en plus à mesure qu'elle parlait. Je vis par son regard qu'elle ne désirait plus causer avec moi, mais plutôt s'entretenir avec ses propres pensées. Cependant, on ne lui laissa pas beaucoup de temps pour la méditation. Une monitrice, arrivée presque au même moment où nous finissions notre entretien, s'écria avec un fort accent du Cumberland. « Hélène Burns, si vous ne mettez pas vos tiroirs en ordre et si vous ne pliez pas votre ouvrage, je vais dire à Mademoiselle Scatcherd de venir tout examiner. » Hélène soupira en se voyant contrainte de renoncer à sa rêverie. Elle se leva pourtant et sans rien répondre, elle obéit immédiatement.